VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 7 février 2022. Eric Manirakis à la présentation, à la une ce soir. Retour triomphal à Dakar des Lions de la Teranga après leur victoire de la CAN hier à Yaoundé. Une marée humaine se déversait dans les rues de Dakar pour accueillir les héros de la CAN. Le Premier ministre centrafricain Harry-Marie Dondra est remplacé par le ministre de l'économie Félix Moloa. Nouvelle mobilisation au Soudan pour réclamer le départ des militaires du pouvoir. Le cyclone tropical Batsirai a fait 20 morts et des rizières dévastées à Madagascar. Les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien reprennent demain à Vienne. Des dizaines de milliers de Sénégalais ont envahi les rues autour de l'aéroport Léopold Sédar Senghor dans l'attente de l'équipe nationale de football de retour du Cameroun après avoir remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. L'arrivée prévue dans l'après-midi des Lions de la Teranga a drainé avec des heures d'avance un flot dense et tapageur s'étendant à perte de vue sur les axes menant en pleine ville à l'ancienne plateforme aéroportuaire. Les précisions avec notre correspondant Seydina Abagay.
Qu'est-ce que tu penses de la qualité de cette victoire des Lions et de l'accueil que le peuple le réserve aujourd'hui? Ici sur la VDN, c'est plein de monde et vous êtes venus accueillir les Lions.
Nous sommes vraiment contents. C'est une première historique pour le Sénégal. Et c'est la fête au Sénégal depuis hier. Nous sommes venus réserver aux Lions un accueil chaleureux pour leur dire à quel point nous sommes contents, à quel point ils nous ont honorés devant toute l'Afrique et devant tout le monde. Vive les Lions, vive le Sénégal. Et c'est là, le mythe est tombé. Le Sénégal est pour la première fois à gagner la Coupe d'Afrique et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Vive le Sénégal, vive les Lions du Sénégal.
Merci. Sur la VDN, il y a beaucoup d'ambiance et les Lions du Sénégal vont tout à l'heure passer ici avec le chef de l'État, Macky Sall.
Vous l'avez bien suivi, le Sénégal, champion d'Afrique de football pour la première fois. Les Lions de la Teranga se sont imposés au tir au but au bout du suspense face à l'Égypte hier soir à Yaoundé au Cameroun. Une première Coupe d'Afrique des Nations vécue comme une libération à Dakar. Notre correspondant Benoît Almeras a assisté au match devant les écrans géants du Monument de la Renaissance.
La foule rassemblée au pied de l'immense statue a explosé comme une cocotte minute après le pénalty vainqueur inscrit par le capitaine Sadio Mané. Une clameur assourdissante après 2 heures de silence et de stress pendant une finale très fermée contre les Pharaons. Djamila a 7 ans. Pour sa première CAN, cette jeune supportrice a elle aussi crié très fort après s'être rongé les ongles.
Je suis trop perdue Sénégal parce qu'au début on ne croyait vraiment pas. Parce qu'en fait il y avait l'Égypte, ils étaient trop forts mais maintenant...
Habillé dans le drapeau sénégalais vert jaune rouge, Djibril lui savoure enfin la première étoile des Lions de la Teranga.
Et on a cherché la coupe pendant très longtemps là-bas.
Ce que nous avons cherché pendant des années et des années, nous l'avons obtenu. Là vraiment c'est une immense soulagement.
Nous sommes tous heureux.
Heureux comme cette marée humaine qui a ensuite déferlé sur les routes et les ronds-points de la capitale. Fumigène, drapeau, chant de supporters, pour la première fois peut-être, les Dakarois étaient joyeux dans les embouteillages.
Oui, l'ambiance presque folle et la joie perdure partout au Sénégal après le sacre des Lions de la Teranga qui ont remporté hier pour la première fois de l'histoire la finale de la CAN au Cameroun. Du coup, les maillots des Lions se vendent comme de petits pains sur les marchés et de nombreux commerçants regrettent de ne pas avoir commandé beaucoup plus de jersey, casquettes et drapeaux du Sénégal. C'est un reportage d'Onama Diara notre correspondant à Dakar.
C'est du jamais vu dans ce pays. C'est une explosion de joie dans les quartiers et marchés de Dakar. Les maillots des lions, de la Teranga et les drapeaux nationaux sont visibles partout. Au marché de Sandaga, il est rare de voir quelqu'un sans le maillot de l'équipe nationale. Bala Diop est très élogié pour les sélectionneurs Aliou Cissé et espère que les lions vont aussi remporter la prochaine Coupe du Monde.
Aliou Cissé, c'est un grand entraîneur. Et pourtant, au début, les Sénégalais ne voyaient pas ça. La Coupe du Monde. Je ne dis pas la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. On va emporter ici la Coupe du Monde. Inch'Allah, Rabbi. Ici, c'est Sénégal. On a tout. On a des marabouts, on a des parents. Si nous sommes unis ici, nous pouvons tout faire.
Après plusieurs années d'attente pour ces trophées continentaux, Madame Awa Sefnian, commerçante de prêt-à-porter, ne cache pas son émotion.
Là, on l'a tant attendu. Parce que ça fait depuis 1986, on espère gagner la coupe, mais ce n'est pas encore arrivé. Et hier, c'était l'heure. De ce fait, on est fiers de nos lions, fiers d'être sénégalaise, fiers de notre entraîneur, Aliou Cissé, qui a toujours tenu bon, malgré les critiques, malgré les pics qu'on lui lançait tout le temps. Il a toujours tenu bon et c'est venu. On est fiers d'être sénégalais et bravo aux lions aussi.
Mais Mme Sek regrette de ne pas avoir fait beaucoup de commandes pour les maillots des lions de la Teranga.
Donc c'est une surprise. Ça nous a surpris. Donc les maillots, on les a achetés au dernier moment.
Vous êtes dans le regret?
Tout à fait. En tant que commerçante, tout à fait. Voilà. Si on savait, on allait augmenter nos commandes et ce serait un bon chiffre d'affaires.
Les lions du Sénégal sont revenus à Dakar avec les trophées continentaux. C'est un retour triomphal et une première dans l'histoire de ce pays. Nama Diarra, Dakar, pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, le Premier ministre Henri-Marie Nondra a démissionné. Dans la foulée, le président Touadéra a nommé ce lundi un nouveau chef du gouvernement. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Les rumeurs de la démission d'Henri-Marie Nondra ont commencé à circuler le week-end dernier dans les médias internationaux. Le concerné a choisi le silence jusqu'à l'officialisation de cette décision ce lundi. Pourquoi Henri-Marie Nondra a-t-il démissionné? Certains de ses proches avancent comme raison des tensions entre lui et certains cadres du parti au pouvoir, le Mouvement Cœurs Unis, MCU. Ces derniers temps, il a subi des attaques et d'invectives sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, le désormais ancien Premier ministre n'a pas précisé les raisons de sa démission, mais a plutôt posté « Au moment où prennent fin mes fonctions à la tête du gouvernement de notre pays, après avoir présenté ma démission, je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir accordé sa grâce durant ces moments, avant de remercier plus tard le président et ses collègues du gouvernement pour leur marque de confiance. » Dans la foulée, le président Faustin Archange Touadéra a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Félix Moulouah, jusque-là ministre d'État au plan, à l'économie et à la coopération international. Il est aussi un cadre du parti MCU, fin connaisseur du rouage politique centrafricain et un habitué des bailleurs de fonds. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
L'interpellation du monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi de la RDC, entendu depuis samedi par les services de renseignement, crée un malaise dans le pays. Aucune information officielle n'a été donnée sur les raisons de l'arrestation de François Béa, considéré il y a quelques semaines encore comme incontournable dans les sphères du pouvoir. Monsieur Béa, surnommé Fantomas, serait soupçonné d'avoir voulu tenter quelque chose en l'absence du chef de l'État, dont la nature sera déterminée après son audition. Félix Tshisekedi était ce week-end au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Au Soudan, les forces de sécurité dispersent des milliers de manifestants à Khartoum ce lundi, à coups de grenades lacrymogènes. Les protestataires réclament justice pour les dizaines de morts depuis le coup d'État d'octobre. Abdulrahman Dia.
Ces tirs ont visé les manifestants anti-putsch réunis aux abords du palais présidentiel où siège le dirigeant de facto du pays, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Les manifestants ont demandé aux militaires de retourner à leurs casernes et appelé à la dissolution des forces de soutien rapide. Ce groupe paramilitaire commandé par le numéro 2 du régime Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamedti, est accusé par les organisations des droits humains d'avoir commis des atrocités. Dans les banlieues d'Omdurman et Khartoum Nord, les manifestants ont demandé justice pour les 79 morts de la répression, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. À Madani, à 200 km au sud de la capitale, plus de 3000 personnes ont défilé, comme à Gadaref et à Port-Soudan, dans l'est côtier du pays. Les autorités soudanaises ont nié à plusieurs reprises avoir utilisé des balles réelles contre les manifestants, signalant que des dizaines d'agents de sécurité ont été blessés et qu'un général de police a été tué.
Le cyclone Batsirai a balayé Madagascar, faisant au moins 20 morts et 55 000 sans-abri. Batsirai s'est déplacé ce week-end sur la grande île avec de fortes pluies et des rafales de vent jusqu'à 165 km à l'heure, ravageant les rizières dans le centre du pays. Nathalie Barge.
Le cyclone tropical a touché une zone côtière agricole de 150 km de long avant de se diriger à l'intérieur des terres, provoquant des crues de rivières qui ont dévasté les rizières du centre du pays, ce qui fait craindre une aggravation de la situation humanitaire, a alerté l'UNICEF. Les toits de nombreuses écoles et centres de santé ont été soufflés dans les zones affectées. Sur son passage, Batsirai a détruit une grande partie de la principale route reliant le nord et le sud de l'île, ce qui rend difficile l'accès dans certains villages, y compris dans les zones de sécheresse, a indiqué Jean-Benoît Manès, représentant adjoint de l'UNICEF à Madagascar. La sécheresse a précipité plus d'un million de personnes dans la malnutrition aiguë, avec des poches de famine dans le sud de la grande île. Madagascar, où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avait déjà été frappé il y a un mois par une tempête tropicale meurtrière, Anna, qui a fait 55 morts et des dizaines de milliers de sinistrés.
Des émeutes meurtrières qui ont secoué l'Afrique du Sud en juillet après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma ont révélé d'importantes failles au sein du renseignement et la faiblesse de forces de sécurité rapidement dépassées, pointe un rapport publié lundi. Les structures du renseignement n'ont pas réussi à anticiper les violences et à y répondre de manière adéquate, affirmait le texte rédigé par un panel d'experts choisi par le gouvernement pour enquêter sur ces violences les plus graves depuis la fin de l'apartheid qui ont fait plus de 350 morts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a salué lundi les efforts français pour résoudre la question de la sécurité en Europe en accueillant au Kremlin son homologue français Emmanuel Macron en pleine crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. La discussion peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, ce qui est une désescalade, a déclaré M. Macron, ajoutant vouloir éviter la guerre et construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Le président français se rend à Kiev mardi pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Union européenne a confirmé ce lundi que les négociations sur le nucléaire de l'Iran vont reprendre demain mardi à Vienne. Téhéran a toutefois prévenu que les discussions ne pourraient pas aboutir si les États-Unis ne lèvent pas leurs sanctions. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Pour créer un climat plus favorable au dialogue, les États-Unis ont annoncé vendredi le rétablissement d'une exemption au régime de sanctions qui avait été supprimé en mai 2020 par l'administration Trump. Cette mesure a été jugée insuffisante par les autorités iraniennes qui ont souligné lundi qu'elle n'aurait aucun impact sur la situation économique dans le pays. Elles ont répété qu'elles n'attendaient rien moins qu'une levée totale des sanctions rétablies en 2018 par l'ancien président Donald Trump qui avait dénoncé l'accord conclu en 2015. La question de la levée des sanctions et les bénéfices que pourrait retirer l'Iran de cette décision sont une ligne rouge dans les négociations, a déclaré Saïd Khatibzadeh, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Les 7 précédentes sessions de discussion indirecte n'ont pas permis d'avancer majeur sur les questions les plus sensibles. Cependant, les diplomates espèrent que ce 8e round qui s'ouvre demain à Vienne permettra de sortir de l'impasse.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manuel-Tizador retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les militaires au pouvoir ont créé ce week-end la commission technique qui doit élaborer la charte de la transition et déterminer la durée de la dite transition. Les acteurs politiques saluent sa mise en place. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La commission est composée d'une quinzaine de personnes issues de divers domaines, des juristes, des enseignants-chercheurs ou des journalistes. La commission technique d'élaboration de projets de texte de l'agenda de la transition devra proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus au sein de la société. Elle doit pouvoir élaborer une proposition de charte de la transition indiquant les principes, les organes, les objectifs, les orientations stratégiques et les modalités concrètes de conduite de la transition. Aboubakar Sanou est du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancienne opposition.
Pour la forme, je pense que c'est très méthodique. Il faut apprécier cela. Par rapport aux acteurs identifiés, quand vous les prenez individuellement, je pense que ça pèse, c'est du lourd. C'est des curriculums vitae vraiment très bien étoffés. Donc ça dit que c'est des gens qui ont une certaine hauteur de vue qui peuvent nous permettre donc de dégager quelque chose de très bien. Quant au fond, nous pensons que la mission, elle est ce que nous attendons parce que jusqu'à présent, il y a un certain attentisme. Comment la transition va se dérouler? Quelle est la charte? Est-ce qu'il y aura un CNT ou pas? Et voilà, donc, mais nous pensons que véritablement, au fond, donc, les MPC donc va leur donner une feuille de route.
Moussa Zerbo est de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, un parti proche de l'ancienne majorité.
La composition même de la commission, vraiment, c'est des personnalités qui jouissent d'une certaine probité. Voilà, ça, je salue cela. Mais dans le document, moi, j'ai un petit problème, la méthodologie de travail. La durée a été fixée pour 2 semaines. Est-ce qu'il est possible, en 2 semaines, de consulter les forces vives des 370 communes? C'est la question que je me pose pour cette commission. Ça, c'est des difficultés peut-être que je vois venir. Sinon, je n'ai rien contre le fond du document.
Est-ce que cette commission va produire un document qui saura faire l'unanimité? Pazien est juriste et analyste politique.
C'est un regroupement d'intellectuels qui devra donc proposer un avant-projet, on peut l'appeler comme ça, un avant-projet de texte. La composition est hétéroclite, il n'y a pas d'homogénéité. Il n'y a pas un camp qui a été a priori exclu ou a priori favorisé. Le premier critère a été essentiellement la technicité. On attend un travail intellectuel et non un travail politique à l'issue donc du compte-rendu qui sera certainement fait par ce groupe de travail-là.
Le décret précise que la commission est indépendante et travaille à l'abri des pressions et manœuvres contraires à l'intérêt général. Ses membres ne reçoivent aucune rétribution pour leur participation aux travaux, précise le décret pris par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, le conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité, François Béya, a été interpellé. Surnommé Fantomas, Monsieur Béya est entendu depuis samedi par les services de renseignement. Eddie Isango, adjoint à Kinshasa, le défenseur des droits de l'homme, est président de la CAJI, Association pour l'accès à la justice. Maître Georges Kapiamba.
Il est toujours en garde à vue, dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement.
Il a été pris samedi, d'après ce que nous avons vu, d'après les tweets que vous avez faits, les premiers d'ailleurs. De quoi lui reproche-t-on?
Bon, il a été appelé samedi vers 13h chez lui à la maison. Les motifs ne sont pas encore spécifiquement notifiés à lui, mais de manière générale, il m'a été dit à moi que c'est une enquête qui est en rapport avec la sécurité de l'État.
Vous l'avez vu, vous avez tweeté, dans quelles conditions est présentement M. François Béa interpellé?
Il est détenu dans des conditions humaines. Il n'y a rien à reprocher à ça. Il a le droit de recevoir la visite des membres de sa famille, son épouse, son frère, ses enfants, selon l'organisation, et de recevoir son médecin traitant s'il le veut, de prendre son médicament, de manger ce qu'il veut.
Quelles peuvent être les conséquences de ça par rapport à son travail, par rapport à sa fonction?
Bon, je pense que politiquement, la conséquence est claire, c'est que à mon avis, ça ne peut qu'être un indicateur de l'effritement de la confiance entre le président de la République et lui-même. Parce que si lui qui est plus haut responsable dans l'appareil sécuritaire, s'il est soupçonné en rapport avec certaines activités qui seraient considérées comme de nature à compromettre la stabilité du pays, alors vous comprenez qu'il ne peut plus y avoir logiquement des confiances, des relations de confiance entre le chef de l'État et lui-même.
Maître Georges Kapiamba, président de la CAJI, Association pour l'accès à la justice.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, une année de défis pour l'Union africaine. Alors que le Congolais Félix Tshisekedi a passé le témoin au Sénégalais Macky Sall ce week-end, l'organisation continentale souhaite consolider l'intégration économique, la démocratie et mettre un terme au coup d'État. Quatre pays, le Soudan, le Mali, la Guinée et le Burkina, sont suspendus de l'Union africaine après des putschs. Quelle réponse de l'UA pour faire face à ces multiples défis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé une augmentation du prix de l'essence Super qui passe de 615 francs CFA à 635 francs CFA le litre selon la Direction générale des hydrocarbures. Des organisations des consommateurs et des usagers déplorent le déficit de communication dans la fixation des prix. Le reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowies.
Dans l'une des nombreuses stations du quartier Bel Air dans la commune de Yopougon, M. Jules Ouattara est venu faire le plein de son véhicule pour la semaine.
C'est malencontreux, mais on va faire avec. On ne sait pas qui explique cette augmentation. Mais bon, on est consommateur, on est obligé de prendre le temps comme ça. Et on n'a pas le choix, quoi.
Jean-Marc Giraud lui parle plutôt d'un abus de pouvoir.
Moi, je trouve ça un peu abusé. De toute augmentation, il doit avoir un motif. Les raisons doivent être détaillées aux consommateurs. Tu as déjà fait ton budget pour ta consommation. Peut-être souvent hebdomadaire, ainsi de suite. Et puis, tu te lèves le matin, tu viens à la pompe, on te dit que le prix a augmenté. Mais c'est tout ça qui nous appauvrit, parce qu'on ne nous permet même pas de budgétiser nos charges.
Et cette dame est commerçante de son état. Elle utilise sa voiture pour ses activités et estime que cette augmentation en rajoute au coût déjà élevé de la vie.
Je suis Madame Koulibaly, système madame. Quand on s'en va à la pompe, on veut prendre un certain nombre de litres. Il peut nous dire que le carburant a augmenté. Ça nous pénalise beaucoup. Quand on augmente le carburant, on augmente tout ce qui est sur le marché. Alors que les salaires n'augmentent pas, du coup, là, ça pénalise la population. Parce que là, tellement, tout le monde pleure. Vraiment, c'est dur.
Mais, brusquement, comme ça, ça nous arrange pas. Pour Monsieur Jean-Marc Giraud, l'État devrait donner à la population et aux usagers les motifs de cette augmentation.
Par exemple, si aujourd'hui on dit le prix des barils a augmenté, ça ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Mais si le baril chute, il faudra que nous aussi on puisse savoir que franchement ça a chuté. Mais ils profitent souvent de nous, à manque d'informations.
Jules Ouattara dénonce cette attitude de l'État qu'il qualifie de cavalière.
Bon, les affiches publicitaires, la communication, parce que tout le monde ne regarde pas la télévision. On ne peut pas tout apprendre par les réseaux sociaux. Nous qui allons toujours au travail, on redescend les heures tardives. On aurait souhaité quand même des messages en termes de téléphonie. On n'est pas du tout content parce qu'une augmentation, ça vient diminuer le budget. Et c'est difficile.
La Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire estime que, par principe de bonne gouvernance, l'État devrait inviter les organisations de consommateurs dans le processus de fixation des prix. Yves Aka, président de la FACI.
On nous dira que ce n'est pas utilisé dans le domaine des transports, mais le travailleur qui a son véhicule, qui doit aller au travail, utilise le plus souvent le super. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est le fait qu'une telle augmentation l'action se fasse sans pratiquement informer les organisations de consommateurs que nous sommes. C'est vrai que ce n'est pas une obligation légale, mais c'est quand même un principe de bonne gouvernance.
Jean-Baptiste Kofi, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, déplore le manque de communication et s'interroge sur les causes de cette augmentation.
Ce qui nous dérange, c'est le déficit de communication autour de la hausse. Pourquoi 20 francs en plus? Pourquoi pas 5 francs? Pourquoi pas 10 francs? Pourquoi pas 15 francs? Il y a certainement des explications.
L'inflation était déjà là. Et lorsque le prix de l'essence augmente, presque tout va augmenter. Delphine Aboïse, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tête à tête aujourd'hui à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron sur la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. Les États-Unis, eux, maintiennent leur mise en garde contre la Russie, accusée d'avoir massé plus de 100 000 soldats le long de la frontière ukrainienne pour éventuellement lancer une invasion à tout moment. Ce qui dément le Kremlin. Davantage avec Arash Arabassadi de la VOA. Récit signé Jacques Aristide.
Atterrissage en Pologne des parachutistes de la 82e division aéroportée américaine. Une démonstration de soutien affichée par les alliés de l'OTAN face aux tensions russo-ukrainiennes. Le général Chris Donahue est le commandant de cette 82e division.
Notre contribution ici en Pologne montre notre solidarité avec tous nos alliés ici en Europe. Évidemment, pendant cette période d'incertitude, nous savons que nous sommes plus forts ensemble.
Washington a également envoyé 650 millions de dollars d'aide à l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien a jusqu'à présent minimisé la probabilité d'une invasion russe. Mais pour l'administration Biden, le danger est réel. Un avis que Jake Sullivan, le conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, a exprimé dans l'émission This Week d'ABC.
Nous pensons qu'il existe une possibilité très nette que Vladimir Poutine ordonne une attaque contre l'Ukraine. Cela pourrait prendre de formes différentes, cela pourrait arriver dès demain ou cela pourrait encore prendre quelques semaines. Il s'est mis en position avec des déploiements militaires pour pouvoir agir de manière agressive contre l'Ukraine à tout moment maintenant.
Jake Sullivan ajoute que les États-Unis demeurent toutefois un partenaire si la Russie choisit la voie diplomatique. La crise ukrainienne a forgé un rare moment d'unité politique à Washington. Démocrates et républicains dénoncent une éventuelle invasion. L'élu républicain Michael McCaul siège au sein de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.
Les conditions sont là, c'est plus probable qu'improbable. L'étau se resserre, c'est autour de l'Ukraine au moment où nous parlons. Nous vivons des jours dangereux, le temps presse. Ce serait la plus grande invasion en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et les jours, comme l'a mentionné Jake Sullivan, se rapprochent.
Les Ukrainiens, quant à eux, sont descendus dans la rue ce week-end, jurant de défendre leur patrie. À Tchernobyl, à seulement 10 km de la Biélorussie, la garde nationale ukrainienne effectue un entraînement au tir réel. Pendant ce temps, une nouvelle semaine diplomatique s'est ouverte aujourd'hui avec l'entretien à Moscou entre les présidents russes et français. Emmanuel Macron a dit à son homologue vouloir amorcer une désescalade et éviter la guerre. Vladimir Poutine a lui salué les efforts de Paris pour trouver un règlement à la crise. La Russie, qui dément tout projet d'invasion de l'Ukraine, réclame que l'OTAN promette de ne jamais admettre Kiev dans ses rangs. Une demande qualifiée d'inacceptable par les Européens et les Américains.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Lunamira Gahima, Gisèle Morissin et Michel Claire-Joseph. Eric Manelakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h en sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.